Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le Studio Kalangu, comme à l'accoutumée, dépêche de temps à autre des équipes à l'intérieur du Niger profond pour rencontrer les populations et leur donner la parole. Nous sommes dans la région de Tawa, précisément à Madawa, où nous sommes dans les locaux de notre radio partenaire Radio Saraounia. Le thème de ce premier numéro du forum délocalisé du Studio Kalangu à Madawa est « Comment parer au conflit entre éleveurs et agriculteurs dans le département de Madawa ?» Quelles sont les zones les plus touchées par les conflits éleveurs et agriculteurs dans le département de Madawa ? Quelles sont les principales causes des conflits éleveurs et agriculteurs ? Quelles sont les principales mesures qu'il faut envisager pour éviter des conflits fratricides entre éleveurs et agriculteurs ? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité Dr Issaka Danjoumo, il est directeur départemental de l'élevage ici à Madawa. Nous avons également avec nous Ali Douka, il est membre de la plateforme paysanne. Et également au studio avec nous, Monsieur Abdou Elhaj Fakando, il est secrétaire permanent de la commission foncière départementale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou pour la présentation de cette émission. Auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu, bienvenue dans ce forum sur les conflits éleveurs et agriculteurs dans le département de Madawa. Madawa est l'un des 8 départements qui compte la région de Tawa. C'est une zone à vocation agro-pastorale où se côtoient éleveurs et agriculteurs. La cohabitation entre ces deux devient souvent difficile durant le cycle de la saison hivernale, allant de la période des premières pousses à l'approche des récoltes. Pendant ces moments, il n'est pas rare que des litiges entre pasteurs et agriculteurs surgissent. Aujourd'hui encore, même si les conflits semblent diminuer d'ampleur, il n'en demeure pas moins que quelques cas surviennent périodiquement. Des litiges qui provoquent des bagarres souvent meurtrières et dévastatrices. En novembre 2016, dans le village de Bangui, situé au sud de la ville de Madawa, un conflit entre éleveurs et agriculteurs a coûté la vie à plus de 20 personnes. Et en 2019, l'on dénombre environ 17 conflits liés aux aires de pâturage dans le département de Madawa. C'est au sujet de tout cela dont nous allons discuter ce soir. Pour commencer, nous allons d'abord vous permettre d'écouter Madame Mariama Adamou, qui est préfet au niveau du département de Madawa, pour une première situation sur la question de conflits éleveurs-agriculteurs.
Nous sommes actuellement dans une période, qu'on peut parler, une période de démarrage de ce conflit avec les CMI. C'est là que ça démarre. Maintenant, avant que les éleveurs transhumants ne quittent la zone, donc vraiment c'est une période qui nous donne beaucoup de difficultés pour pouvoir gérer donc ces petits temps. Donc moi je pense qu'on ne peut pas donner les chiffres, mais pendant cette période, le conflit il est minime. Il est très minime pendant cette période parce que c'est les semi, tout simplement. Le conflit devient plus crucial pendant la saison, pendant la récolte. Là, au retour des transhumants.
Qui revient d'où ?
Qui revient de l'Azawak. Donc, du retour des transhumants de l'Azawak, là, vraiment, on ne peut même pas compter les conflits.
Donc, pendant les mouvements des transhumants, des pasteurs du nord vers le sud,
voilà.
Qui quittent le nord pour aller vers le Nigeria, c'est ça, et qui traversent le département.
Voilà. Donc, c'est pendant cette période-là, la période du retour, c'est ça qu'on appelle généralement les retours des transhumants. Donc, le retour des transhumants, c'est du nord vers le sud, et en cette période, c'est du sud vers le nord. Pendant cette période. Et pendant cette période, c'est vraiment moindre, très moindre, parce que c'est juste les semis. C'est peu de gens qui sèment le névé et l'arachide, et c'est ces gens-là qui craignent beaucoup plus les dégâts champêtres. Mais pendant la période de leur retour, du nord vers le sud, donc notre département est traversé par tous les transhumants. Du Nigeria, les transhumants de la Guinée, les transhumants qui transitent vers le Tchad. Mais ils passent par notre département, les Cameroun et autres. Tous ces pays-là, leurs transhumants traversent notre département. Et c'est pendant cette période que nous enregistrons des cas de conflits énormes. Là, on ne peut même pas chiffrer, puisque par jour, on peut compter plus de 10, puisqu'on est toujours interpellé par-ci, par-là. Et pendant cette période, tout le monde s'active, la chefferie traditionnelle, les élus locaux, les élus, les maires, et les autorités administratives, la sécurité. Et malgré tout, ça dégénère souvent à des conflits dramatiques, souvent mortels.
Et voilà, vous venez d'écouter donc Madame la préfète du département de Madawa. Alors, un premier tour de table pour que chacun puisse nous présenter rapidement sa structure et la mission phare de la structure. Je commence par vous, Monsieur Abdou El Hadj Fakando. Vous êtes secrétaire permanent de la COFODEP, la Commission foncière départementale de Madawa.
La mission générale de la Commission foncière, c'est vraiment la sécurisation des opérateurs ruraux. J'allais dire toutes les commissions foncières, c'est d'assurer la sécurisation foncière des opérateurs ruraux. C'est aussi assurer la surveillance et le contrôle des mises en valeur des ressources naturelles. C'est aussi procéder au recensement des ressources naturelles et à la tenue du dossier rural, c'est-à-dire l'inscription des droits qui s'exercent sur ces ressources-là au dossier rural.
Merci. Donc, nous allons nous tourner vers M. Ali Douka. Vous êtes membre de la plateforme paysanne. Présentez-nous l'organisation en question.
Notre structure, c'est pour le développement de l'agriculture. Le rôle que ça joue, c'est défendre les intérêts des producteurs, leur trouver des débouchés, leur trouver aussi des partenaires qui vont les appuyer dans le cadre de l'agriculture et surtout pour le développement de l'agriculture dans le département de Madawa.
Nous passons à Monsieur Docteur Issaka Danjoumou, directeur départemental de l'élevage ici à Madawa. Dites-nous la direction départementale de l'élevage de Madawa, sa mission.
La direction départementale de l'élevage de Madawa donc assure la première des choses, le rôle dans la santé animale, c'est-à-dire la protection de la santé animale. Mais non seulement la santé animale, nous avons aussi le rôle qui joue, le rôle important que la direction joue, n'est-ce pas, dans la production animale. Et qui dit production animale dit la commercialisation des bétails à pied et la commercialisation aussi de produits issus des animaux vivants. Donc la direction départementale de l'élevage, n'est-ce pas, sous cette direction, nous avons 6 services communaux. Chaque commune a un communal de l'élevage qui s'occupe de ses activités, n'est-ce pas, dans son entité. Et aussi, nous avons un service vétérinaire de proximité, n'est-ce pas, lui qui a un mandat sanitaire et qui couvre tout l'ensemble du département de Madawa.
Bien. La question prochaine, c'est comment décrivez-vous l'ampleur des conflits entre éleveurs et agriculteurs? Ces frères, ces personnes qui se côtoient tous les jours, qui sont des frères et sœurs, car d'une même communauté. Et voilà, ce premier tour de table, je commence avec vous, Monsieur Abdou El Hadj Fakando, secrétaire permanent de la commission foncière départementale de Madawa. Comment décrivez-vous l'ampleur des conflits éleveurs-agriculteurs?
On peut dire que ça varie en dents de scie. Tantôt ça monte, tantôt ça descend. Nous avons par exemple en moyenne une vingtaine, par exemple, de conflits par an, par saison.
Monsieur Ali Douka, quel est votre point de vue par rapport à la croissance ou à l'ampleur de ces conflits?
Madame, les conflits là, ils sont un peu réguliers. Hein, parce que depuis au moment des semis, ça commence. Ça commence dès le semis. Parce que il y en a qui sèment, par exemple, l'arachide, le niébé, dès la première pluie. Alors, à ce moment-là, ces agriculteurs n'ont pas, ces éleveurs n'ont pas quitté les lieux. Ce qui amène des conflits parce que maintenant, dans les champs, on voit les animaux qui sont un peu partout dans les champs et qui peuvent brouter. Et les premières pousses de l'arachide et du nibé, ce qui amène des conflits. Donc ça commence dès maintenant.
Alors, quelles sont à votre avis les zones les plus touchées par les conflits éleveurs agriculteurs dans le département de Madawa?
C'est les zones agricoles.
Et est-ce qu'on peut avoir des noms, des localités?
Par exemple, à Bangui, même ici dans le département, dans la commune de Madawa, on en trouve. Dans la commune de Sabangida aussi. Et aussi dans la commune de Ournou, on trouve ces conflits-là. Presque dans toutes les communes, hein. Mais ces communes que je viens de citer...
C'est plus fréquent dans ces communes.
C'est plus fréquent dans ces communes.
Alors, peut-être que M. Abdou Elhadj Fakando va peut-être compléter par rapport aux zones du département de Madawa qui sont les plus touchées, où ces conflits surviennent le plus souvent.
C'est la zone de Bangui, où nous avons plus donc de conflits généralement entre agriculteurs et éleveurs, et à la commune de Sabangida et la commune de Madawa. Ensuite, un peu dans la commune de Ournou, la commune de Galma, par ordre, et ensuite à Zeroudi. Mais c'est qu'il faut, il y a des situations qui sont là en permanence, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé de solution, surtout en ce qui concerne un couloir de passage pour la commune de Azeroudi là. Donc c'est ça qui fait que c'est toujours la même situation.
Bien. Nous allons alors aller vers Dr Isaka Danjumo, qui est directeur départemental de l'élevage de Madawa. Monsieur le directeur, dites-nous à votre avis, quelles sont les principales causes des conflits éleveurs et agriculteurs?
Les causes-là vraiment sont nombreuses. Il y a d'abord la mise en culture des couloirs de passage. Nous avons aussi les difficultés d'accès à l'eau. Parce que parfois, on vient, les cultivateurs, ils viennent, ils sèment sur les passages de ces animaux. Nous avons aussi les problèmes liés, surtout les agriculteurs, ils rentrent dans les aires de pâturage. Ils rentrent dans les aires de pâturage, alors que ces aires-là sont réservées spécifiquement à l'élevage.
Ça veut dire que vous parlez des petits morcellements qui sont souvent opérés.
Qui sont souvent opérés, mais pourtant, lui, l'éleveur, il sait que c'est
une zone réservée normalement à l'élevage.
Voilà vraiment les grandes raisons vraiment de ce conflit. D'abord, le couloir de passage. On vient, on sème sur le couloir de passage. On sait que pertinemment, c'est le passage des animaux, n'est-ce pas? Là où les animaux vont partir boire de l'eau, n'est-ce pas? Là aussi, sur les chemins, on vient, on bloque. Et aussi, l'empiétinement, aussi les morcellements, n'est-ce pas, des aires de pâturage. Vraiment, c'est trois principales causes.
Alors, nous allons faire le tour aussi vers M. Ali Douka, membre de la plateforme paysanne. Dites-nous, quelle autre raison explique la survenance de ces cas de conflit entre éleveurs et agriculteurs, en dehors de ce qu'il vient de citer, bien sûr?
De couloirs de passage, parce que dans certaines zones, les couloirs ne sont pas tracés, ne sont pas balisés. Les éleveurs traversent les champs, ce qui amène des conflits.
Parce que il n'y a pas de signe apparent que ces zones, et cette zone fait partie de la zone agricole, et cette zone c'est la zone qui nous est réservée. Donc manque de balisage.
De couloirs de passage. Et ensuite, les éleveurs, deux fois, ils partent brouter dans les champs à l'insu des propriétaires des champs. Par exemple, si nous prenons le cas de culture de contre-saison, vous voyez, les éleveurs partent nuitamment dans les champs pour faire des dégâts.
De façon exprès ou par erreur?
Pas par erreur, exprès. Parce que lui, l'éleveur, il ne voit que son animal. Hein. Il veut que son animal se rassasie. Et pour avoir un bon point. Donc, ils partent notamment pour brouter dans les champs des gens. Alors, des fois, ils trouvent des gardiens.
C'est-à-dire que le propriétaire du champ est présent.
Il est là, il est présent.
Les confrontations naissent.
Il garde son champ, notamment lui aussi. Une fois que l'éleveur arrive...
Pour lui, il a pris un voleur.
Il le prend. Il y a eu des conflits comme ça.
Alors, quelle autre raison?
À part ces raisons-là aussi, il y a le rétrécissement de couloirs de passage et le manque des aires de pâturage. Parce qu'il y a certaines zones, les aires de pâturage n'existaient pas. Mais après, On a créé des aires de pâturage dans les champs des gens. Et ces gens-là ne sont pas d'accord qu'on crée des aires de pâturage dans leurs champs. C'est pourquoi il y a le conflit. Il y a là où les paysans ils labourent les aires de pâturage, les transforment en champs. Alors, une fois que l'éleveur veut rattraper cette erreur-là qui a été faite, maintenant, il y a des conflits. Bon, là, on veut retirer le champ que le gars avait préparé pour le remettre aux éleveurs. Donc, il y a conflit. Donc, il y en a qui disent que il y a des dizaines d'années qui n'ont pas su qu'il y a une aire de pâturage ici et qu'on vient de la créer.
Alors, voilà, Monsieur Abdou El Hadj Fakando, secrétaire permanent COFODEP, Commission foncière départementale, quel autre complément d'information par rapport aux raisons de ces conflits que nous voyons de plus en plus fréquents?
Je voudrais faire quand même une mise au point. Par rapport aux couloirs de passage, nous avons au niveau du département 13 couloirs de passage principaux.
Et dans le département de Mandawa.
Dans le département. C'est-à-dire qui traverse tout, selon les, au niveau des communes, si on fait le calcul selon les communes, il y a 13 principaux qui traversent le département. Et que ces 13-là, ils sont tous délimités et il y a 12 qui sont balisés.
Sur les 13, 12 sont balisés.
Sur les 13, 12 sont balisés.
Bien.
Est-ce que vous voyez?
Bon, maintenant, c'est important de le savoir.
Oui, c'est important de le savoir. Maintenant, le problème, c'est le respect des statuts et vocations des ressources. C'est ça qui pose des problèmes. Le respect de ce couloir de passage-là. Éviter d'empiéter sur ce couloir de passage-là. Et que eux aussi, les éleveurs passent à travers ce couloir de passage-là. Quand ils parlent donc des éleveurs qui ne respectent pas le couloir, tout à l'heure, je parlais d'un couloir qui n'a pas trouvé encore de solution, c'est Pitine.
C'est le 13e.
Non, ce n'est pas le 13e. C'était même le premier qu'on a balisé. Il était même reconnu partout, au niveau de tous les villages où on est passé. Il est reconnu et nous l'avons délimité, nous l'avons balisé. Mais maintenant, respecter ça, c'est devenu un problème.
Respecter par qui? Par les agriculteurs.
Par les agriculteurs. C'est devenu un problème et c'est ce qui fait que quand, pendant la transhumance, les animaux viennent, ils sont obligés de traverser les champs. Et au niveau, par exemple, du faisant de Azurori, ils sont bloqués. Généralement, il faut que les autorités interviennent pour permettre aux animaux de progresser. Il y a le problème d'occupation des couloirs de passage par les villages, par des habitations. Parce qu'il y a des gens qui construisent donc sur le couloir de passage. Et des gens qui créent des jardins sur le couloir de passage.
Et du coup, le couloir de passage est détourné.
Voilà, le passage est détourné. Et les couloirs de passage et même les aires de pâturage, il n'y a pas de nouveau. C'est des anciennes ressources, des ressources reconnues de tout le monde, de toutes les communautés.
Mais les gens ont souvent du mal à
respecter. Voilà, ont souvent du mal à respecter ou à les quitter. Quand on dit que vous êtes sur un couloir de passage, où il faut quitter, ils ont des problèmes pour les quitter. Maintenant, il y a la question des dégâts champêtres.
C'est que avait évoqué tout à l'heure Ali Douka.
La question de la pâture nocturne, comme il l'a dit. La question de la divagation des animaux ou bien des veaux. Par exemple, quand vous prenez la commune de Bangui, pendant l'hivernage, des veaux qui divaguent dans les champs, tout ça là, ça fait des problèmes. Donc, vraiment, il y a cette question de descente précoce. Parce que déjà, ici, en août, vous allez voir les gens, les moutonniers là descendre.
Du nord vers le sud.
Du nord vers le sud. Donc, toutes ces questions-là font qu'effectivement, il y a des difficultés et que vraiment, les autorités administratives et traditionnelles et administratives, vraiment, elles sont toujours, comment on appelle,
À pied d'œuvre,
vraiment, pour contenir la situation.
Alors, justement, par rapport aux efforts qui sont fournis et par rapport à toutes ces questions et aux raisons qui motivent la survenance de certains conflits, nous allons écouter madame le préfet de Madawa, de Mariama Adam.
Donc les mesures sont d'avoir la sécurisation des ressources pastorales pour éviter à ce que les agriculteurs rentrent dans les champs. Donc ça c'est une mesure. On est en train de sécuriser au maximum de valiser les ressources pastorales.
Les couloirs de passage.
Oui, c'est ça, les ressources pastorales. Donc, il y a les couloirs de passage, il y a les aires de pâturage, il y a des couloirs secondaires, il y a des couloirs internationaux. Donc, on essaie les ponts d'eau, on essaie les aires de repos, on essaie de les sécuriser pour permettre à ces gens d'être beaucoup plus de leur espace. Et le deuxième aussi niveau, c'est notre assemblée générale, la réunion du comité qui nous permet de définir la date à laquelle il ne faut plus voir les animaux dans les champs. Le troisième niveau, c'est la redynamisation du comité paritaire. Les comités paritaires, c'est des comités qui sont composés des représentants du chef traditionnel, des représentants des éleveurs, des représentants des agriculteurs et un leader religieux, un représentant d'une femme et d'un jeune au niveau de chaque village qui sont souvent censés gérer le conflit avant que ça ne dégénère.
Au niveau local.
Au niveau local. Et c'est surtout le comité paritaire là, dans les zones de transhumance, à forte transhumance, le comité est composé de deux représentants des éleveurs, dont un représentant des éleveurs transhumants et un représentant des éleveurs sédentaires qui ne partent pas en transhumance, un représentant des agriculteurs. Et nous, ici, la spécificité de Madawa, on a souvent dans le comité paritaire 5 représentants des chefferies traditionnelles, c'est-à-dire que chaque chef doit être représenté dans le comité paritaire. Et c'est ces gens souvent qui règlent tous les petits conflits avant que ça dégénère. Et le troisième, le quatrième aspect, la stratégie, donc, c'est la sensibilisation à travers la radio Saronia. Nous faisons toujours de sensibilisation avec cette période-là. On commence jusqu'à la fin de la récolte. Toujours on rappelle aux gens les rôles des uns et des autres. Le rôle de la chefferie traditionnelle, le rôle des maires, le rôle des autorités administratives, le rôle des agriculteurs, des éleveurs de la gestion de ces conflits.
Donc nous venons d'écouter Madame Mariama Adamou, préfet de Madawa, sur les efforts qui sont fournis. Alors on fait un premier tour de table pour savoir quels sont vous à vos niveaux différents, au niveau de vos services, les efforts que vous faites pour justement faire face à ces conflits éleveurs-agriculteurs. Je commence par vous au niveau de la direction départementale de l'élevage. Est-ce que vous êtes impliqué et à quel niveau? Docteur Issaka Danjoumou.
Oui, on est impliqué puisqu'on fait partie de la COFODEF et tous les conflits, toutes les résolutions sont faites avec nous. Et toutes les résolutions de ces conflits-là sont faites avec nous. Donc on est impliqué. Et donc, comme vous voyez,
est-ce qu'il y a des actions de communication, de sensibilisation qu'il vous arrive de faire avec justement ces éleveurs?
Oui, il y a des actions de sensibilisation. Ça, c'est ensemble qu'on fait ça avec la COFODEF et à travers les sorties qu'on fait, à travers le forum qu'on fait. Il y a des sensibilisations, des séances de sensibilisation qu'on fait à travers les éleveurs.
Et c'est quoi les messages que vous passez à ces occasions?
Les messages, vraiment, c'est le respect. Chacun, le respect de sa conduite, n'est-ce pas? Vous avez le couloir, vous avez des aires de pâturage, n'est-ce pas? Vous avez des puits pastoraux. Vraiment, donc, il faut respecter, n'est-ce pas, les voies qui vont vous permettre d'accéder, n'est-ce pas, à ces endroits.
Alors, Monsieur Ali Douka, que faites-vous au sujet des conflits éleveurs agriculteurs pour faire face à la situation?
De ne pas vraiment travailler dans les aires de pâturage, de ne pas labourer les aires de pâturage, de ne pas bloquer les couloirs de passage des animaux, n'est-ce pas? Et surtout pour éviter les conflits. De ne pas aussi faire justice
vouloir soi-même.
Vouloir se faire justice soi-même. Puisqu'il y a des comités qui ont été mis en place pour le règlement des conflits. Donc, on doit s'abattre sur ces comités-là, ou bien à la chefferie traditionnelle, ou bien à la justice, à la gendarmerie. Donc, il y a des canaux pour le règlement de ces conflits, de ne pas se faire justice soi-même.
Monsieur Adamo Elage Fakando, vous êtes secrétaire permanent de la COFODEP, la commission foncière départementale. On sait que le comité national du code rural a élaboré un document de procédure de gestion des conflits agriculteurs et éleveurs. La résolution s'est faite comme suit: recherche d'un règlement à l'amiable ou une conciliation devant les autorités coutumières, puis un recours à la justice en cas d'échec de la conciliation. Pouvez-vous nous expliquer un peu ces procédures?
La procédure veut que, effectivement, quand il y a conflit entre agriculteurs et éleveurs, le mieux c'est de faire les règlements à l'amiable, c'est entre les parties. Donc entre les parties, ils se comprennent, l'agriculteur et l'éleveur, ils se comprennent, ils règlent. C'est recommandé. Maintenant, au cas où ils ne parviennent pas à régler entre eux, ils peuvent se transformer devant une autorité traditionnelle.
Le chef du village.
Ça peut être donc le chef de tribu. Donc les textes prévoient au niveau donc de ces instances-là, la commission paritaire, comme on l'a dit, la commission paritaire. Et là, il y a les acteurs sont représentés à partie égale. Donc le même nombre d'agriculteurs et le même nombre d'éleveurs autour donc du chef du village. Donc là, effectivement, si le chef du village parvient, chacun expose les éléments donc de sa plainte. S'il y a un règlement, il y a un procès verbal qui est produit par le chef du village. Et au cas contraire, il y a un procès verbal de non-conciliation qui est produit et ils vont à l'échelon supérieur.
C'est-à-dire là,
du chef de canton ou du groupement. Donc au niveau du chef du groupement, c'est la même procédure. Il peut faire recours. Donc bien entendu, j'ai oublié de dire que on peut faire recours à ce stade-là à l'expertise de la commission foncière, donc de communale par exemple, pour appuyer le chef du village pour des propositions de solutions, pour ou bien évaluer peut-être les dégâts. Donc c'est la même chose au niveau du chef de canton ou groupement. Donc la commission paritaire, elle a la même composition et on tente de faire une conciliation. Ce n'est pas un jugement. Ils tentent de faire une conciliation à ce niveau. Là, s'il y a conciliation entre les parties, il y a un procès verbal de conciliation qui est établi avec des témoins. Et les différents acteurs signent, plus les témoins et le chef de canton ou groupement.
Et au cas contraire,
c'est un autre procès de non-conciliation qui est produit, qui est adressé au juge de première instance.
Ça veut dire que là, on saisit la justice quand les parties n'arrivent pas à s'entendre.
Voilà, les parties n'arrivent pas à s'entendre. Donc là aussi, au niveau du juge, on peut tenter aussi une conciliation d'abord, avant donc d'ouvrir le dossier pour le jugement. Donc là, à ce niveau aussi, il y a un recours de la première instance à la seconde instance, si les parties ne sont pas...
Ça veut dire qu'on peut aussi, à ce niveau aussi, on peut épuiser tous les recours en cas nécessaire.
S'il y a une partie qui n'est pas satisfaite, elle peut aller en seconde instance. Après la seconde instance, là aussi, s'il n'y a pas satisfaction, une partie qui... elle peut faire un pourvoi en cassation. Et je pense que là, c'est fini. Donc la voie, elle est tracée.
Par rapport justement à la gestion des conflits qui surviennent éleveurs-agriculteurs, quelles sont les difficultés qui arrivent le plus souvent? Est-ce que les gens ont tendance à respecter les décisions au niveau local, à accepter la conciliation, ou il y a une tendance au rejet de la conciliation? Monsieur Abdou El Hadji Fakando.
Bon, on peut dire que les gens acceptent la conciliation, sauf des cas particuliers. Mais dans la plupart des cas, la conciliation est respectée au niveau donc des instances traditionnelles. Maintenant, il arrive qu'il y ait des exceptions qui font que les gens vont se présenter à la justice pour en tout cas défendre leurs droits.
Parce que la justice, c'est vraiment le dernier recours.
C'est pas un mal en soi de défendre son droit. Nous, ce que nous disons, que les gens comprennent le processus.
Qu'il y a une procédure à respecter, que personne ne doit se faire justice.
Voilà, tout à fait.
Monsieur Ali Douka, par rapport aux difficultés souvent de trouver un règlement de conflit à l'amiable.
Une fois que le paysan se voit lésé, s'il n'est pas d'accord avec la procédure, il y a d'autres canaux à suivre, comme l'a dit Alhaji Abdou. Donc c'est au niveau de la chefferie traditionnelle, au niveau du village. Et entre même l'agriculteur et l'éleveur, ils peuvent s'entendre.
À votre avis et selon votre expérience, lequel des partis ou laquelle des partis est plus enclin à vouloir aller au-delà, à ne pas vouloir accepter
la compte? C'est l'agriculteur.
C'est lui qui a perdu.
C'est lui qui se voit lésé. C'est lui qui va encore en avant dans une autre juridiction pour réclamer.
Dans une perspective
droits.
De rentrer dans ses droits.
Oui. C'est l'agriculteur. L'éleveur, lui, chaque fois, il cherche vraiment à se concilier avec le paysan avant d'aller plus loin, parce qu'il sait que si ça va un peu plus loin, peut-être il a dépensé plus qu'avec le paysan.
Docteur Issaka Danjoumou, directeur départemental de l'élevage, par rapport à ce sujet.
12 sur 13 couloirs sont balisés. Il n'y a qu'un seul couloir qui n'est pas balisé. Tous les couloirs ont été délimités. Vous voyez, donc vraiment...
Normalement, on ne devrait pas avoir...
Pour les éleveurs, il n'y a pas de problème. Donc le problème revient de l'autre côté.
À votre avis?
À mon avis. Vous voyez quoi?
Alors, quand justement, de toutes les façons, malgré cela, il y a souvent des conflits qui arrivent, est-ce qu'il y a, des difficultés à ce que les parties s'entendent? Pourquoi souvent c'est difficile que les parties s'entendent?
Selon moi, c'est mon avis. N'est-ce pas? Il y a un certain nombre de difficultés. Vous savez, ici, il y a plusieurs chefs de canton, il y a plusieurs groupements.
Oui, on a des groupements, on a des cantons.
Voilà, il y a plusieurs groupements traditionnels. De l'autre côté, il y a nous aussi les chefs de canton. Voilà. Donc maintenant, il peut se faire que l'éleveur, lui, il a son chef. Lui, le cultivateur, il a son chef. Vous voyez quoi?
Du coup, quand on règle le problème, par exemple...
Non, lui, il n'est pas d'accord avec...
Parce que ce chef, il est agriculteur.
Lui, il se croit lésé ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, donc il y a plusieurs... Vous savez, c'est l'humain comme ça. C'est l'humain. Donc, quelqu'un peut dire que non, le jugement là qu'on a fait, vraiment, ça m'a lésé. C'est un jugement qui n'est pas impartial. Il a pris son côté ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, ça, c'est une difficulté que je vois de mon côté. Ce qui fait que la personne peut ne pas accepter le jugement. Et elle dit que non, elle va continuer en haut pour voir si elle va avoir la solution.
Voilà, un mot rapidement sur ces points qu'il soulève. Monsieur Abdoulaye Fakando, secrétaire permanent COFEDAP.
Je vous ai parlé d'état, peut-être des exceptions. J'ai dit par exemple ici, quand on a une exception, une erreur de pâturage qui a fait l'objet d'un jugement, mais qu'on n'arrive pas à appliquer. On est là jusqu'à présent, on n'arrive pas.
Donc, quelque part aussi, il y a un manque de volonté de la part des acteurs, on est d'accord.
Des acteurs, c'est ça, ça bloque. Quand vous voulez appliquer des interventions de gauche à droite, et puis ça bloque.
Bien. Alors, nous entamons pratiquement la dernière partie de cette émission par rapport aux perspectives et les mesures à envisager. Selon vous, comment et avec quelles mesures peut-on mettre fin au conflit fratricide entre éleveurs et agriculteurs? Continuez, M. Abdoulaye Fakando, secrétaire permanent Commission foncière départementale.
La procédure, la logique, je pense qu'on la connaît. Vous savez, les autorités nationales, depuis les années 80, on a cette préoccupation de créer les conditions de cohésion sociale, de cohésion des paix, de conditions d'une cohabitation apaisée entre les agriculteurs et les éleveurs pour permettre donc aux activités, en tout cas culturelles, agricoles, de se dérouler dans les bonnes conditions.
Mais selon vous, aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que malgré tout
ça... C'est ça. Donc c'est de poursuivre les actions de sécurisation. Les actions de sécurisation, cela suppose l'identification, et la délimitation, la matérialisation, l'inscription au dossier rural des droits qui s'exercent sur les ressources naturelles. C'est de poursuivre, en tout cas, de faire les actions de sensibilisation. Les normes, toutes les normes applicables aux ressources naturelles, c'est de les vulgariser le contenu donc, en tout cas, de ces textes-là au niveau donc au milieu paysan. Il faut poursuivre donc cette vulgarisation. Il faut poursuivre le contrôle de mise en valeur. Surtout ça. Parce qu'il y a des actions qui sont faites à des fautes de contrôle de mise en valeur régulier, il y a des remises en cause. Donc là, c'est très important. Une fois que vous aurez sécurisé une ressource, il faudrait suivre, faire un suivi, un contrôle régulier. En attendant que les gens s'approprient, en tout cas, la ressource et font respecter. Le statut ou vocation de cette ressource.
Parce que quelque part, on peut se rendre compte que souvent les textes aussi qui régissent ces domaines ne sont pas forcément connus par tous.
Oui, c'est vrai. La méconnaissance, effectivement, on ne peut pas nier cette méconnaissance au niveau des acteurs. Ça aussi, c'est une préoccupation. Ce qui fait qu'effectivement, au niveau du code rural, vous avez des paliers. En dehors de la commission foncière départementale, au niveau communal, vous avez la COFOCOM, qui a vraiment ce rôle. Donc, de
commission foncière communale.
Communale, voilà. Oui. Et au niveau de la commission foncière aussi, du village, commission foncière de base, pour prendre les relais de sensibilisation, de vulgarisation et même de sécurisation donc, des ressources au niveau de leur terroir.
Monsieur Ali Douka, à votre avis, aujourd'hui, sur quoi doit-on mettre l'accent pour limiter ou pour en finir avec les conflits fratricides entre éleveurs et agriculteurs?
Tel que le code rural, il faut que la population s'imprègne des contenus du code rural. Ensuite, il faut une extension des champs, des terres de culture. Parce que depuis 1961, que certaines zones ont été déclarées zones pastorales et que la population augmente, il y a la démographie galopante. Donc, on ne cultive qu'au sud du pays. Il faut vraiment une extension des terres cultivables.
Mais est-ce qu'une extension des terres cultivables n'augmentera pas à la difficulté encore? Parce que cela supposera qu'on continue les morcellements dans les heures de pâturage.
Mais qu'est-ce qui fait le conflit? C'est parce que les terres sont restreintes et que la population elle est galopante. Et ensuite, même les éleveurs ont besoin d'avoir des aliments, de se nourrir. Donc, les éleveurs sont devenus aussi des agriculteurs.
Quelles autres mesures doit-on envisager pour parer ou pour prévenir ces conflits?
Les mesures qu'il faut prévenir les conflits, c'est d'abord la sensibilisation au niveau de la population. Vraiment. Et aussi, il faut une éducation au niveau des éleveurs et au niveau des agriculteurs. Vraiment d'éviter les conflits. De ne pas se faire justice soi-même. Il y a des canaux qu'ils doivent suivre pour réclamer leurs droits et défendre leurs intérêts. Et aussi au niveau des chefferies traditionnelles, d'être impartiaux. Il ne faut pas que quelqu'un vient, on a brouté son champ et que par après, on n'arrive pas à le mettre dans ses droits. Donc la chefferie traditionnelle doit jouer son rôle.
Sans parti pris. Voilà. Docteur Issa Kadanjoumo, alors rapidement pour terminer avec vous, directeur départemental de l'élevage, à votre avis, sur quoi peut-on aujourd'hui